Donc on va aborder le texte Dialogo del Reggimento di Firenze et on va l'aborder sur le sens même de l'écriture du texte. Enfin, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté d'essayer de définir quelque chose qui soit uno vivere di Repubblica bene ordinato nella città nostra. Et alors cette expression là, uno vivere di Repubblica bene ordinata nella città nostra, eh bien c'est tiré d'un texte écrit très, très tôt dans le parcours de Guicciardini, puisqu'il s'agit d'un passage d'un des tout premiers ricordi, hein, de ceux qu'il écrit quand il est ambassadeur en Espagne, hein, dans ses quaderni, hein, d'où la dénomination quaderni due, hein, le deuxième cahier sur lequel il écrit ses premiers ricordi, hein, ses regole qui sont d'abord des bornes, des repères pour la pensée. Et dans le quaderno 2 17, hein, on a la formulation suivante. Tre cose desidero vedere innanzi alla morte. Uno vivere di Repubblica bene ordinato nella città nostra. Italia liberata da tutte barbari e liberato il mondo dalla tirannide di questi scelerati preti. On note, même si ce n'est pas le propos principal de notre intervention d'aujourd'hui, qu'il avait écrit, hein, à la place de cette formulation extrêmement violente contre ces scélérats de prêtres, hein, la tyrannie de ces scélérats de prêtres, il avait écrit « Et réformate à la Chiesa ». Hein, « Et réformate à la Chiesa ». C'est-à-dire que on voit bien comment quand même ça se situe très, très clairement hein, dans la suite de quelque chose qui a à voir avec la prédication savonarolienne. En tout cas, il écrit ça donc en 1512. Il va le réécrire dans la rédaction B, hein, donc en 1528. Et là, il va reprendre pratiquement la même formulation, hein, en ajoutant une phrase qui montre que le temps a passé et que ce désir, cette aspiration républicaine, hein, ces trois objectifs qu'il a en tête, uno vivere di Repubblica bene ordinata nella città nostra, Italia liberata da tutti i barbari, e liberato il mondo dalla tirannia di questi scelerati preti, il sait qu'il a peu de chance, hein, de les voir avant sa mort. Tre cose desidero vedere innanzi alla mia morte, ma dubito ancora che io vivessi molto, non ne vedere alcune. La meilleure preuve que le temps remet en question, donc le temps, et dans le temps il faut comprendre l'expérience historique, l'expérience politique et les échecs de ses aspirations, eh bien, dans la dernière rédaction, la rédaction C de 1530, il n'y a plus ce ricordo qui définit l'aspiration et les espoirs de l'homme Guicciardini. Mais il faut avoir cette idée-là en tête quand on prend en compte l'épaisseur du texte, enfin, voilà. Alors, vous savez que le Dialogo del Reggimento di Firenze n'est pas le premier texte qu'il écrit sur il Reggimento di Firenze. Hein, le premier écrit à Logroño, en Espagne, au moment où il est ambassadeur, et il s'agit donc de ce discours qu'on appelle généralement du nom, en lui donnant le comme nom le lieu où il a été rédigé, où il a été terminé le 27 août 1512, on l'appelle Discorso di Logroño. Et alors, les premières lignes du texte montrent bien que la volonté, enfin, d'écrire vient d'une constatation. Voilà ce qu'il écrit donc dans les toutes premières lignes du discorso di Logroño. Due ragioni principali mi fanno credere che la nostra città, in processo di non molti anni, se Dio evidentemente non la aiuta, abbia a perdere la libertà e stato suo. La prima è che dopo tanti naufragi delle cose d'Italia e poi che questi principi avranno combattuto assai, pare ragionevole che in qualcuno sia per rimanere potenza grande, il quale cercherà di battere i minori e forse ridurre l'Italia in una monarchia. Il che ancora mi è più capace, considerando con quanta fatica, al tempo che in Italia non erano principi esterni, si difendeva la comune libertà, ora quanto più sarà difficile, avendo sì grandi uccelli nelle viscere sue. Ed in questo caso io vedo le cose nostre in grave pericolo, perché noi non abbiamo forze sufficienti a difenderci, vivendo disarmati e trovandosi la città, a rispetto dei tempi passati, con pochi danari per essere declinate le mercatanzie e quali ci hanno più volte tenuti vivi. Donc la première raison, c'est donc la question même de la possibilité de la survie de la République florentine. Hein? Il écrit à un moment où l'Italie a donc si grandi uccelli nelle viscere sue, hein, des oiseaux rapaces dans ses viscères. Évidemment, les deux oiseaux rapaces qui dévorent les viscères de l'Italie sont la France et l'Espagne. Et cette première constatation, donc liée, vous ne serez pas surpris de ça, à la qualité des temps, à la situation de guerre que vit l'Italie depuis 1494, c'est la première notation importante du discorso di Logroño, et la seconde raison, hein, qui font penser que Florence risque de perdere la libertà e stato suo, eh bien, c'est que précisément, hein, espoir de vivre des républiques bien ordinato à Florence n'est pas ce qu'on peut constater. Voilà ce qu'il écrit donc immédiatement après le premier paragraphe. La seconda ragione è che il vivere nostro civile è molto difforme da uno ordinato vivere di una buona repubblica. Così nelle cose che concernono la forma del governo, come negli altri costumi e modi nostri, un'amministrazione che porta a pericolo o di non diventare tirannide o di non declinare in una dissoluzione popolare, una licenza universale di fare male con poco rispetto e timore delle leggi e magistrati, non essere aperta via agli uomini virtuosi e valenti di mostrare ed esercitare la virtù loro, non proposti premi a quelli che facessino buone opere per la Repubblica, un'ambizione universale in ognuno a tutti gli onori ed una presunzione di volersi ingerire in tutte le cose pubbliche di qualunque importanza. Gli animi degli uomini effeminati ed enervati e volti a uno vivere delicato e, rispetto alle facoltà nostre, suntuoso, poco amore della gloria ed onore vero, assai alle ricchezze e danari. Queste ragioni mi fanno male sperare di noi, ma non desperare, perché io crederei che se ne potessi sanare una gran parte e che, sebbene la cura è molto difficile, non sia però impossibile. Et donc, cette analyse, hein, la situation d'hier, le fait que les formes d'organisation et de fonctionnement du gouvernement de Florence ne sont pas définissables comme uno vivere di repubblica bene ordinato, donc extrême difficulté de régler cette question, mais en même temps, hein, la volonté de ne pas abandonner, hein, quelque chose qui ressemble à l'expression machiavélienne « non si abbandonare mai », hein, montrer le visage à la fortune, essayer, non desperare. Hein. Et la cura est molto difficile, les soins sont très difficiles, mais ils ne sont pas impossibles. À aucun moment, Guicciardini n'abandonnera cette tentative d'élaborer une pensée qui aille dans le sens de la réalisation de ses aspirations profondes. Donc une démarche pragmatique de réflexion où il va falloir sonder gli umori della città, il va falloir sonder la condizione dei tempi, il va falloir éprouver les hypothèses de transformation au creuset même du raisonnement, il va falloir évaluer ce qui peut être au regard de ce qui est. Donc, mener une démarche pragmatique, une réflexion pragmatique, mais jamais cette réflexion pragmatique n'est disjointe de l'aspiration, du désir qui peuvent définir en quelque sorte un programme d'espoir. Donc la réflexion menée par Guicciardini, hein, dans le Dialogo del Reggimento, comme celle qu'il menait plus de 10 ans auparavant dans le Discorso di Logroño, part de cette constatation: il n'y a jamais eu à Florence une république bien ordonnée. Hein, et donc, il n'est pas possible de trouver les solutions en se contentant de proposer un modèle, en se contentant de reconduire des expériences déjà vécues qu'il suffirait d'analyser et de reproduire. Alors, cet état des lieux, ce point de départ, cet état des lieux qui est le départ de sa réflexion politique, on la trouve, hein, comme votre oreille habituée maintenant au texte machiavélien a dû le sentir, on la trouve également chez Machiavel. Hein. Au fond, on trouve une expression semblable, par exemple, dans le passage des Discorsi, livre 1, paragraphe 49, hein, où Machiavel écrit « Così, bon, le sujet est Firenze, hein, così Firenze è ita maneggiandosi per 200 anni che si ha di vera memoria, senza avere mai avuto stato per il quale la possa veramente essere chiamata Repubblica. » Ouais, donc vous voyez le parallèle très net qu'on peut établir entre cette formulation machiavélienne, sans doute plus dense que c'est une habitude d'écriture de Machiavel. Donc « non ha mai avuto stato per il quale la possa veramente essere chiamata Repubblica ». Évidemment, l'écho avec « il vivere nostro civile è molto difforme da uno ordinato vivere di una buona Repubblica » de Guicciardini. Les deux Florentins, donc, sur la base de ce point de départ identique, de cet état des lieux identique, se posent une question semblable. Donc, état des lieux identique, question semblable. Le Machiavel la pose très clairement dans un autre passage du discours, passage extrêmement célèbre, hein, qui est le passage de discours 1-18, dont le titre même du chapitre 18 du livre 1, « In che modo nelle città corrotte si potesse mantenere uno stato libero essendovi o non vi essendo ordinarvelo ». Alors, les questions identiques Hein, question identique, c'est-à-dire que la question que se pose Machiavel, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand les moyens ordinaires sont devenus inutiles pour corriger la corruption de la cité, quand ils sont considérés par tous comme mauvais. Hein. Et alors, là, c'est là que la réponse va différer entre Machiavel et Guicciardin. Hein. C'est là qu'il y a une vraie nette différence, hein. C'est sur la réponse. Hein. Donc, état des lieux semblable, questionnement semblable, réponse différente. Machiavel a une réponse, comme à son habitude, radicale, hein, simple, radicale. Je vous lis le passage dans lequel il énonce cette solution radicale dans le discours 1.18. Quanto a rinnovare questi ordini a un tratto, quando ciascuno conosce che non sono buoni, dico che questa inutilità che facilmente si conosce è difficile a ricorreggerla, perché a fare questo non basta usare termini ordinari, essendo modi ordinari cattivi, ma è necessario venire allo straordinario com'è alla violenza ed all'armi. Donc là, la réponse machiavélienne est en effet radicale, hein, la violence et les armes. La violence et les armes, éventuellement, donc ne pas hésiter à, pendant un temps du moins, à tendre vers quelque chose qu'il définit comme uno stato regio. Hein, le principat d'un seul, une dictature au sens romain du terme. Hein. Vous voyez bien que cette formulation, « necessario venire allo straordinario come alla violenza ed all'armi », c'est sans doute ce qui permet d'imaginer que là se situe une des raisons profondes de l'écriture du prince. L'écriture du prince, qui peut être précisément de se dire que puisque la situation est ce qu'elle est, puisque la cité est corrompue comme elle l'est, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est que pendant un temps au moins, quelqu'un puisse devenir le prince de la cité et en disposer à sa façon. Vous savez que c'est un des points qui a fait naître l'hypothèse, hein, point avec le petit passage, la petite phrase dans le prince qui dit « je ne vais pas traiter les républiques parce que j'en ai déjà traité longuement ailleurs, et donc je ne traiterai ici que du principat ». Un des points d'appui de cette thèse, mais l'autre point d'appui, c'est la réalité du questionnement machiavélien et de la réponse qu'il donne à la question de comment faire dans une république corrompue, dans une cité corrompue. Hein. Et là, on n'aura sans doute jamais les preuves de ce moment où il décide, sur la base des questionnements des premiers chapitres des discours et en particulier du chapitre 1.18, de commencer à écrire le prince, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les problématiques théoriques sont présentes, hein, et ça, le fait intellectuel est là, et peu importe que l'on puisse prouver ou non les hypothèses de datation et de chronologie de l'écriture, le fait intellectuel est là, je crois qu'on peut dire très clairement que le prince, d'une façon ou d'une autre, donne les réponses à ces questions de posées dans les discorsi. Alors les réponses que Francesco Guicciardini, lui, va donner sont bien différentes. Hein, donc d'abord parce que, contrairement à Machiavel qui les pose de façon générique, hein, il va, lui, les faire porter précisément sur la façon de gouverner Florence, sur le regimento de Florence, sur le governo de Florence. Et la deuxième raison pour laquelle ces réponses de Guicciardini sont différentes, c'est que, contrairement à Machiavel, Guicciardini se méfie des tumultes, se méfie des mezzi straordinari, hein, du straordinario, de la violenza et des armes. Hein. Il se méfie de ça, et ce qu'il va construire comme réponse, c'est un mécanisme complexe d'équilibre des forces qui permettent d'aboutir à un gouvernement tempéré. Et le dialogue del Reggimento di Firenze, par son écriture, par la méthodologie de pensée qui y est à l'œuvre, hein, par la précision des propositions concernant gli ordini dont il espère la mise en place dans la cité, constitue le moment le plus achevé de la réflexion de Guicciardini sur le gouvernement de Florence. Alors, il y a une thèse méthodologique qui, là aussi, ne nous paraîtra pas surprenante, hein, parce qu'elle fait écho avec une thèse méthodologique machiavélienne. Hein, c'est la question de considérer la nécessité, lorsque on aborde un questionnement politique, de considérer les choses telles qu'elles sont réellement. L'expression qui apparaît justement dans le dialogue del Reggimento di Firenze, c'est l'expression « la natura delle cose in verità ». Cette « natura delle cose verità », c'est ne pas se cacher les fonctionnements réels du politique. Ne pas se cacher les faiblesses, ne pas se cacher les difficultés, mais les énoncer clairement. Vous savez que cette thèse-là, bon, d'une certaine façon, elle fait écho à la thèse machiavélienne énoncée dans le chapitre 15 du Prince, hein, « Seguire la verità, andar dritto, la verità effettuale della cosa, e non l'immaginazione di essa ». Elle va donc de pair, chez Guichardin comme chez Machiavel, avec une méfiance vis-à-vis de la pure théorie, hein, de la pure écriture philosophique qui voit les choses telles qu'elles devraient être et pas telles qu'elles sont en réalité. Hein. Il y a là l'affirmation d'un pragmatisme nécessaire de la démarche intellectuelle. Alors, ce point-là, il est présent, là aussi, sur une longue période dans les écrits de Guicciardini, et en particulier donc dans une série de ricordi qui va des tout premiers, ceux de la première série écrite qui ont été écrits en Espagne, et on peut les suivre, hein, jusqu'à la toute dernière, la série de 1530, hein, la rédaction C. C'est remarques méthodologiques ont à voir avec la formation juridique de Francesco Guicciardini, Mais sur ce point, Paolo Carta, qui a déjà écrit des textes importants sur cet aspect des choses, vous développera les attendus. Et moi, je ne fais que vous montrer la présence sur la durée d'un point décisif. Le point décisif, c'est la fonction de l'expérience et donc la nécessité de ne pas parler des choses du monde per regola. Hein, per regola. Donc la toute dernière formulation, celle de 1530, c'est ricordo C6, è grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente. E per dire così, per regola, perché quasi tutte hanno distinzione e eccezione per la varietà delle circostanze, le quali non si possono fermare con una medesima misura. E queste distinzioni e eccezioni non si trovano scritte in su libri, ma bisogna le insegni la discrezione. Donc la discrezione, je crois qu'on pourrait la définir comme l'entendement qui naît de l'expérience vécue. Je crois vraiment que c'est la façon de le penser, hein, de le définir. Et vous voyez que dans les toutes premières formulations, quaderni 12, de façon plus ramassée, on trouve la même règle méthodologique. Les regole si trovano scritte in sui libri. Et là, vraiment, il faut penser au juriste qui a terminé peu de temps auparavant ses études de droit. Il y a bien des règles, mais il y a des casi eccettuati. Et ceux-là sono scritti in sulla discrezione. Discrezione. Donc il faut avoir en tête, hein, et on la retrouve dans toutes les formulations, dans toute une série de formulations, dans la rédaction A, dans la rédaction B, hein, où il parle libre de la discrétion, hein, et une formulation dans la rédaction B 121, où la question de l'expérience est mise en évidence. Ricordatevi di quello che altra volta ho detto, che questi ricordi non sanno osservare indistintamente, ma in qualche caso particolare che ha ragione diversa non sono buoni. Donc vous voyez que cette règle, il s'applique à lui-même, il s'applique à sa propre capacité à tirer des règles partielles de son expérience. Hein. Mais ces règles partielles, ces ricordi, ces choses qu'il faut avoir en tête, qu'il faut réfléchir continuellement et qui sont des espèces de concentrés d'expérience, eh bien même cela, on ne peut pas les observer de façon indistincte. Hein, parce qu'ils ne sont pas toujours valables dès lors que naît un cas particulier, hein, avec des éléments différents qui font qu'on ne peut pas appliquer tel quel ce qui est écrit. Et quali siano questi casi, dans ces cas particuliers, non si può comprendere con regola alcune, né si trova libro che lo insegni, ma è necessario che questo lume ti dia prima la natura e poi la esperienza. Hein? Donc, la discrezione, c'est d'une certaine façon un don de la nature, une capacité intellectuelle, une capacité à théoriser, une capacité à analyser. Ça, là où on l'a pas, c'est on est malin ou pas, il pense ça complètement. Mais si on n'a pas l'expérience, hein, si on n'a pas l'expérience, on ne peut pas avoir la discrétion. Hein. C'est pour ça que je disais de penser le sens de discrezione comme un entendement, une intelligence des choses fondée sur une expérience vécue. Alors, cette structure-là, vraiment méthodologique, hein, cette façon de concevoir le lien entre règle générale et particulier, que seule la discrezione née de la experiencia peut résoudre, eh bien, il l'exprime très clairement dans le dialogue de Reggimento di Firenze, avec une formulation qui, là aussi, totalement en harmonie avec celle qu'on vient de balayer. Hein. Ogni regola ha delle eccezioni, le quali, nelle cose del mondo, si insegnano più con la discrezione che possono distinguersi abbastanza o che si trovino scritte in su libri. Bisogna siano distinte dal giudizio di chi considera le circostanze dei casi. Alors, donc cette mise en garde, on doit la garder, cette mise en garde de Guicciardini, on doit la voir en tête, hein, quand on lit les textes de Guicciardini, hein, et bien la comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là l'idée que jamais on peut avoir des règles, hein. C'est-à-dire que il y a l'idée qu'il faut considérer que les règles ne suffisent pas, qu'il y en a, qu'elles sont, voilà, qu'il faut les avoir en tête. Il y a même des règles plus détaillées qui sont par exemple les ricordi que lui-même élabore, mais il ne faut pas pour autant laisser de côté l'usage à tout moment du giudizio ou de la discrezione née de l'expérience. Il ne faut pas se laisser aller même à reproduire à l'identique des choses que soi-même on a élaborées. Hein. Ne parlons pas seulement des textes des philosophes ou plus généralement des gens qui se sont intéressés aux choses de la politique, i politici, hein. Mais même sa propre réflexion, il la prend pour ce qu'elle est, à savoir un moment d'élaboration qui doit à tout instant être interrogé, remis en question. Un exemple de ça, c'est dans son dialogue, là c'est un dialogue post-mortem, parce que Machiavel est mort depuis un ou deux ans quand il écrit ses considérations sur les discours, hein, quand il fait des gloses, des commentaires à un certain nombre des chapitres des discours de Machiavel. La façon dont il réfléchit, par exemple, sur la question, une question centrale sur la réforme de Florence, de l'usage des moyens extraordinaires, hein, me paraît tout à fait intéressante. Voilà ce qu'il dit. Però bisogna che il principe abbia animo a usare questi straordinari quando sia necessario. E non di meno sia si prudente che non pretermetta qualunque occasione se gli presenti di stabilire le cose sue con la umanità e con benefici, non pigliando così per regola assoluta quello che dice lo scrittore, al quale sempre piacquono sopramodo e remedi straordinari e violenti. Donc vous voyez, sur cette question de l'usage des moyens extraordinaires, prônée par Machiavel, Il ne dit pas il faut jamais utiliser les moyens extraordinaires. Il dit il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Mais il ne faut pas considérer que leur usage doit être une sorte de regola assoluta. Hein. Il ne doit pas y avoir d'usage absolu. Il faut être là, un autre terme hein, qui dit un peu la même chose que giudicio o discrezione. Le prince, quand il les utilise, doit être prudente. Prudente. Et cette prudence doit l'amener, hein, cette discrezione du prince doit l'amener à utiliser, quand c'est nécessaire, gli extraordinari, mais quand il peut, humanita benefici. Et donc la façon dont il lit Machiavel, c'est qu'il estime que Machiavel a tendance à absolutiser la question des règles. Hein. Al quale sempre piacquono sopramodo e remedi straordinari e violenti. Alors, bon, on peut nous-mêmes, on pourrait nous-mêmes, et on l'a fait et on fera remettre en question cette lecture de Machiavel appliquant strictement des règles absolues, parce que on voit bien que Machiavel aussi sait faire usage de la discrezione. Hein. Mais c'est intéressant de noter que quelqu'un qu'il connaît bien, qui en rapport, était en rapport d'amitié et de collaboration avec lui, le voit de cette façon-là. Hein. Donc ce point est important. Hein, et on voit bien que ça va apparaître nettement dans le dialogue, hein, dans le dialogue. C'est-à-dire que il va regarder les choses telles qu'elles sont, hein, telles qu'elles sont. In effetti, hein, terme extrêmement récurrent dans le texte du dialogue de Regimento di Firenze. Gli effetti, bien entendre que dans gli effetti, il y a à la fois les faits tels qu'ils sont et les effets hein, que produisent ces faits. Donc, vous savez qu'il va l'affirmer, par exemple, quand il va analyser le fonctionnement et le fondement même des stati, hein, quand il va mettre en évidence la violence nécessaire de ceux qui dirigent les États, hein, et que c'est précisément dans ce passage-là qu'apparaît sa formulation la natura delle cose in verità. Précisément quand il aborde des questionnements complexes, à savoir difficiles à admettre, à dire clairement, qui est qu'il faut de la cruauté, il faut de la violence, il faut du sang pour diriger les États. Hein, et moment qui définit par queste difficultà che sono grandissime. Hein? Il y a une difficulté, surtout pour quelqu'un qui est élevé dans la religion chrétienne. Il che ho voluto dire, non per dare sentenza in queste difficultà che sono grandissime, poiché chi vuole vivere totalmente secondo Dio può mal fare di non si allontanare totalmente dal vivere del mondo. E male si può vivere secondo il mondo senza offendere Dio. Ma, il y a une vraie difficulté, mais dire cela, c'est parler hein, selon ce que requiert la nature des choses en vérité. Parlare secondo che ricerca la natura delle cose in verità. Donc, je vous disais déjà tout à l'heure que cette expression, hein, ce nécessaire pragmatisme, cette nécessaire vision des choses telles qu'elles sont dans gli effetti et non telles qu'elles ont été imaginées, hein, est quand même quelque chose qui est présent dans les penseurs florentins de l'époque, évidemment chez Machiavel, hein, évidemment chez Machiavel, donc Machiavel, prince 15, mi è parso più conveniente andare dritto alla verità effettuale della cosa, et là aussi, effetti, hein, verità effettuale, vérité de fait et vérité des faits, hein, verità effettuale della cosa, che ha la immaginazione di essa, et qu'on retrouve, qu'on retrouve par exemple dans le sommario della storia d'Italia dal 1511 al 1527 d'un autre des Florentins de l'époque, hein, qu'on connaît à cause justement de son rôle dans la politique florentine et de ses liens épistolaires et amicaux avec Machiavel et Guicciardini, Francesco Vettori. Hein, et lui utilise l'expression « parlare delle cose di questo mondo senza rispetto e secondo il vero ». Secondo il vero. Et là aussi, il oppose cette façon d'écrire senza rispetto, secondo il vero, hein, il l'oppose à quelle repubbliche scritte, immaginate da Platone, o come una che scrive Tom Moro in inglese, essere stata trovata in utopia. Donc, lorsque dans le dialogue, hein, Bernardo del Nero rappellera que non abbiamo a cercare di uno governo immaginato e che sia più facile apparire in sui libri che in pratica, come fu forse la Repubblica di Platone, hein, non abbiamo a cercare d'un governo immaginato. Il est dans une lignée. Hein, il est dans une ligne d'interprétation commune à Florence, la ligne d'interprétation réaliste, hein, pragmatique, réaliste. Et précisément, ce qui suit ce refus, hein, de la recherche d'un gouvernement imaginé, d'un gouvernement qui serait beau sur la page écrite, mais qui ne pourrait pas exister en pratique, hein, eh bien, ce qu'il définit, c'est une méthode d'approche qui consiste à faire l'analyse concrète d'une situation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut cercare di uno governo che non siamo senza speranza, che pur si potessi persuadere introducere, e che introdotto si potessi, secondo il gusto nostro, comportare e conservare. No. Un gouvernement dont on puisse avoir l'espoir de l'introduire. Notez bien cette question de l'espoir, parce que on l'a déjà vu au tout début du processus de réflexion de Guichardin sur la façon de penser un gouvernement pour Florence. Hein. Rappelez-vous, je ne désespère pas qu'on puisse trouver une solution dans le discorso di Logroño. Hein. Mais pour que cet espoir d'introduire uno vivere di repubblica bene ordinato à Florence, eh bien, il faut partir d'une analyse, d'une considération, d'un discorso delle cose. Hein? Là aussi, considerato la natura. Hein? Rappelez-vous que lorsque Dans le dernier paragraphe, il exprimait la volonté ou le désir des hommes. Hein, la volonté et le désir des hommes va de pair avec la considerazione au discorso delle cose. Et cette considerazione, hein, là il l'exprime très clairement, de que faut-il considérer? Il faut considérer la natura, la qualità, le condizioni, la inclinazione, e per stringere tutte queste cose in una parola, gli umori della città e dei cittadini. Hein? Et ça va être ça, le but, l'objectif et l'enjeu de l'écriture du dialogo del Reggimento di Firenze. Considérare les choses, la considérazione delle cose. Il va falloir considérare gli umori della città e dei cittadini. Et cela pour concevoir une forme de gouvernement, une forme de reggimento, une forme de Stato, qu'on ne soit pas sans espoir de pouvoir introduire. Alors, c'est un des points décisifs de cette considération delle cose, de ce discours delle cose, c'est l'analyse de la conjoncture historique. Et cette analyse de la conjoncture historique, elle part de la mise en évidence d'une différence entre alors et maintenant. Allora, avant 1494, et évidemment, le sens même de l'écriture, hein, le sens même de situer le dialogue à ce moment-là, c'est précisément pour mettre en place, hein, cette opposition entre deux moments historiques, allora et ora. Alors, ce point est très nettement affirmé dans le dialogue, mais il était déjà dans une série de ricordi de la série A, B et C. Alors, dans le dialogue del Reggimento, un passage tout petit peu long, mais que je vous lis parce qu'il est quand même extrêmement pertinent pour comprendre cette mise en place d'une opposition entre deux périodes historiques. Avvertite bene che se questo governo che comincia disordinato non si riordina, bisogna che la fine sia o la ruina della città, la quale perda il dominio e diventi sottoposta. Vous voyez là le lien avec toute première phrase du discours di Logroño est évident. Hein. O che si torni in una tirannide dove comunemente capitano tutti i governi popolari licenziosi. Se sarà quella dei Medici, avrà le male condizioni dette di sopra, e qualunque altro fossi, non potrà essere che non sia molto più strana che le passate. E la ragione impronto, perché lo Stato dei Medici non successe a una libertà, ma a uno stato di pochi, in modo che allo universale che non aveva il governo in mano non pareva perdere niente e facilmente comportava che lo stato andassi dall'uno all'altro. Anzi, le condizioni di quei tempi erano tale che sempre i minori facevano bene di questi travagli e mutazione perché si spegnevano i principali ed i bassi erano tirati su. E si venivano sempre nobilitando e migliorando il grado suo. Ed i capi del governo non avevano causa se non di carezzarli perché li avevano per amici. E questo era vero in ogni novità. E fu molto più in quella del 1934, perché la Casa dei Medici, tra gli altri fondamenti che ebbe di crescere, fu il favore degli uomini bassi. Donc, les Médicis, en 1934, comme l'ancien, a affirmé sa domination, mais en prenant la place d'un Stato qui déjà était uno Stato stretto. Et en plus, il l'a fait avec il favore degli uomini bassi. Donc, il avait à ce moment-là la faveur dello universale della città, della grande masse dei citoyens florentins. Ma ora che il popolo ha gustato la dolcezza della libertà ed uno reggimento dove a ognuno pare avere parte, non si potrà più fare stato stretto che non sia in sommo odio dello universale. E chi ne sarà padrone bisognerà che viva pieno di sospetto e si fondi in sulla forza. Vous vous souviendrez là aussi que en 1512, c'est précisément ce que les partisans des Médicis leur suggèrent, hein, de se fonder sur la force. E che stati siano quelli che, nei quali ha a regnare la violenza e del sospetto, voi lo sapete senza che io lo dica. Alors, ce point d'opposition était présent, donc dans la rédaction A des Ricordi, donc avant 1525, dans la rédaction B en 1528. Allora, la città non aveva gustato la libertà e il vivere largo, chi s'opposa più difficoltà a ora, perché là, évidemment, il y a eu un avant, un après, il y a de nouveau une situation différente. Hein. Vous voyez, cette façon, à chaque moment, d'analyser les données, non pas une fois pour toutes, hein, non pas une fois pour toutes, mais en fonction d'un moment historique déterminé. Hein, un moment historique déterminé. La memoria del vivere popolare continuata dal 94 al 1512 si è appiccata tanto nel popolo che, eccetto quelli pochi che in uno stato stretto confinano di poter sopraffare gli altri, il resto è inimico di chi è padrone dello Stato, parendogli sia stato tolto a sé medesima. E, dans la dernière rédaction, celle de 1530, c'est, hein, on est en 1530, et encore en 1530 se pose la, hein, est mise en évidence la difficulté à conserver le stato di Firenze. Et le terme, bon, que nous connaissons bien, là, qui est le terme guichardinien pour dire la conjoncture, apparaît, hein, vi concorse la condizione dei tempi. Parce que Cosimo, l'ancien, avendo Cosimo avuto a combattere lo Stato con la potenza di pochi, senza displacenza dello universale, il quale non conosceva la libertà. Ma oggi, essendo stato gustato il Consiglio Grande, non si ragiona più di torre o tenere usurpato il governo a 4, 6, 10 o 20 cittadini, ma al popolo tutto, il quale ha tanto l'obietto a quella libertà che non si può sperare di fargliene dimenticare con tutte le dolcezze, con tutti i buoni governi e esaltazione del pubblico che i medici o altri potenti usino. Donc le premier, hein, premier aspect de la mise en place, de l'application de la méthodologie, c'est l'analyse de la condizione dei tempi et du fait que dans la période où l'on est, au moment où se déroule le dialogue, mais aussi, c'est ça qui est important, aussi au moment où, donc bien plus tard, entre 1521, 1525, 26, moment où Guicciardini écrit, on ne peut pas faire abstraction de l'expérience historique et du fait que l'universale de la cité de Florence a gustato il Consiglio Grande. Donc quand on parle, quand Guicciardini dit il va falloir considérer les humeurs de la cité et des citoyens, il dit il faut les considérer à l'intérieur de la condition des temps, la condition des tempi. Et que nous dit cette considération, ce discorso delle cose? Eh bien, il nous dit que, essendo stato gustato il Consiglio Grande, il faut tenir compte de ce goût, il faut tenir compte de cette expérience vécue et de cette aspiration des citoyens à la libertà. Hein? Il popolo tutto, il quale ha tanto l'obietto a quella libertà, che non si può sperare di fargliene dimenticare. Allora, aspect ulterior de cette méthode, une interrogation permanente dans le texte, hein, centrale dans le texte du dialogue, sur la nécessité de ne pas s'en tenir au nom et de considérer les choses. Donc là, eh bien que c'est le développement logique de la position méthodologique qu'on vient d'affirmer, hein, ce qui est que pour comprendre vraiment ce qu'il en est, pour comprendre vraiment quelle est la nature, la qualité, etc. Quelles sont, pour le dire en un mot, les humeurs de la cité et des citoyens, il faut aller au-delà des dénominations habituelles et interroger ce qu'il y a sous les dénominations. Et alors, ce point est exprimé dans le dialogue par une formule vraiment importante, hein, qui va l'aider, qui va être le point de départ, la formulation théorique qui va l'amener à l'intérieur du dialogue à remettre en question des dénominations qui passent pour évidentes. Hein. Gli uomini, dit Bernardo del Nero dans le dialogo, gli uomini si lasciano spesso ingannare tanto da nomi che non conoscono le cose. Donc, il faut ne pas se laisser tromper par les noms. Hein? Pas se laisser tromper par la douceur des noms. Donc, carrément, la question de quelque chose qui serait de l'ordre de l'analyse sémantique est vraiment au cœur du dialogo del Reggimento di Firenze. Alors, on le voit d'emblée sur un point de débat du tout début du dialogue, qui est la question de savoir comment nommer le gouvernement qui est né avec le départ de Pierre de Médicis, les discussions, le rôle de Savonarole. Vous savez que Bernard Del Nero va être obligé de poser à plusieurs reprises la question à ses interlocuteurs pour écarter les fausses dénominations. Alors, il veut savoir quel est le nom qu'on peut donner à ce nouveau gouvernement qui est né de la mutazione dello Stato. Noi vogliamo disputare se la mutazione dello Stato è stata utile alla città o no. E secondo questo fondamento che io ho fatto, a volere bene risolversene, bisogna considerare gli effetti di quello governo che è mutato e le condizioni sue. E d'altro canto, d'un côté, une fois qu'on saura quel est le sens de la mutazione, on pourra comparer les effets che faisait le gouvernement ancien, gli effetti di quello governo che è mutato e le condizioni sue. E d'altro canto, considerare quali saranno gli effetti e le condizioni di questo che voi avete introdotto. O forse, per dire meglio, pensate di introdurre, perché vedendo che il cammino al quale pare che ora si indirizzi è diverso da quello che mostrava il principio del vostro Parlamento, io non so come averlo a battezzare. De quoi s'agit-il? Comment le nommer? Però ditemi che governo sarà questo, a ciò che considerata la natura sua e la natura della città e di questo popolo, possiamo immaginarci che effetti producerà. Allora, il va être amené a poser une deuxième fois la question, però ditemi, io ve ne dimando di nuovo come sa egli a battezzare. E une troisième fois, e però ci bisogna ritornare a quel mio primo fondamento, che se io non mi inganno, è sì chiaro che mi pare superfluo il perderci dentro più tempo. Dunque ditemi, questa è la terza volta che io ve ne dimando, che governo sarà questo vostro. Tiens, façon d'interroger sur l'issue du débat qui a lieu dans les toutes premières semaines qui suivent le départ de Pierre de Médicis. Est-ce qu'il s'agit de revenir à avant 1434, de remettre en place un gouvernement des grandes familles, ou est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement, d'une forme de gouvernement nouvelle, et donc de quelque chose qui tend vers le governo largo, de quelque chose qui tend vers le governo popolare. Alors, cette série de questionnements amène à la réponse, qui met en évidence le rôle de Savonarole, dunque il frate, è causa che ora si sia fatto quello che senza lui si sarebbe presto fatto, e si è fatto con migliore modo e manco disordine, perché dans le dialogo del reggimento di Firenze, les caractères positifs du gouvernement d'avant 1434, du gouvernement des oligarques, caractère positif que Francesco Guicciardini défendait encore dans, et de quelle manière, hein, avec quelle vigueur, dans ces stories fiorentine de 1508-1509, hein, est remis en question. C'est-à-dire que le travail de nettoyage, hein, vraiment un travail de nettoyage sur l'historiographie, sur le sens des mots, etc. Hein. Donc, grâce à Savonarole, on sait que ce n'est pas ce gouvernement des oligarques qui va prendre la suite du gouvernement des Médicis, mais bien du un Stato Popolare. E però abbiamo a ragionare dello Stato Popolare. E per tornare al nostro principale intento, ci bisogna considerare da uno canto quello che era o faceva di bene e male il governo dei Medici, d'altro che effetto farà a Firenze uno governo di popolo, poiché il frate ci toglie a queste fatiche di parlare del governo di pochi o, come voi altri solete dire, degli ottimati. Donc, première interrogation sur comment nommer ce gouvernement qui, en fait, signifie comment nommer questa mutazione di Stato, quel sens donné à ce qui s'est passé en novembre-décembre 1494. Une autre interrogation, une autre remise en question des termes qui irriguent normalement la vie politique. La politique de Florence, c'est l'interrogation sur le terme libertà, sur ce que signifie libertà. Alors, ben, dans le discorso di Logroño, la liberté, le terme liberté, le quasi-concept républicain de liberté, était considéré nettement par Francesco Guicciardini comme un élément naturel de Florence, un attribut de la République florentine. La libertà è propria e naturale della città nostra. E definissait la libertà de façon classique dans la tradition républicaine né altro la libertà che uno prevalere le leggi ed ordini pubblici allo appetito degli uomini particolari. Donc, dans le discorso di Logroño, hein, la libertà, attribut de la cité, in quella sono vivuti i passati nostri, in quella siamo nutriti noi. Hein. Et nos ancêtres nous l'ont légué pour que nous la défendions, que nous la défendions au besoin avec nos biens et notre propre vie. Vraiment, hein, on a l'expression donc de la thèse centrale républicaine, hein, avec différence, hein, c'est que en 1512, au moment où il écrit le discorso di Logroño, le fondement de la liberté, c'est le vivere popolare del quale spirito è base è il consiglio grande che abbia a distribuire e magistrati e dignità della città. Donc ça, c'est le point de départ. Point de départ. Alors, cette libertà évidente, propria et naturale, elle va être interrogée dans le dialogue de Reggimento di Firenze. Elle va être interrogée au point que, la conclusion qui va être tirée de cet interrogatoire va être précisément que, non è così naturale, né così universale è il desiderio dei governi liberi. La conclusion va être ça. Concludendo, adunque, dico che non è così naturale né così universale è il desiderio dei governi liberi, come ha detto Paolo Antonio. E se era così a tempi antichi, è molto più nei nostri, che siano più corrotti. E però dico che se questi che predicano la libertà credessino in uno Stato stretto avere per il particolare suo migliore condizione che in uno libero, ne resterebbero pochi che non vi corressino per le poste. E questi ingegni elevati e spiriti generosi che lui ha detto, dunque, les optimates, non sarebbero forse degli ultimi, i quali, quando cercano la libertà, si muovono quasi sempre per qualcuna delle regioni dette di sopra, e dei lamenti loro di non avere in uno Stato stretto occasione di mostrare bene la sua virtù, diremo in altra parte del nostro ragionamento, bastandoci per ora solamente questo, che chi ha scritto dei buoni governi nelle città, non avendo rispetto a questa ambizione dei pochi, ha sempre proposto il governo di uno quando è stato buono, e la ragione è stata questa, perché i governi non furono trovati per fare onore o utile a chi ha a governare, ma per beneficio di chi ha a essere governato, e nel disporgli non si cerca che ognuno governi, ma solo chi è più atto. E il revient a son le fondement même de toute l'analyse, bisogna ritornare a quello mio primo fondamento, che gli effetti dei governi sono quelli che danno la sentenza. Et on revient à ça après ce long développement sur l'analyse de ce qu'est vraiment la liberté. Alors, là, le questionnement est assez simple. Voilà, c'est que il explicite que io ho considerato spesso che questo nome della libertà è molte volte preso più presto per colore, per scusa, da chi vuole occultare le sue cupidità ed ambizione, che infatti si trovi così naturale negli uomini questo desiderio. Mi pare bene, se io non mi inganno, che negli uomini si trovi naturale il desiderio di dominare e di avere superiorità agli altri, e che comunemente siano pochissime che amino tanto la libertà che, se avessino occasione di farsi signori o superiori degli altri, che non lo facessino volentieri. Donc, ce qu'il demande à ses interlocuteurs de reconnaître, c'est qu'il y a un enjeu entre les grandi et l'universale, le grand nombre des citoyens. Les grandi, coloro che sono dei primi gradi della città, non hanno tanto per obietto la libertà quanto cercano sempre di ampliare la sua potenza e farsi superiori e singolari quanto possono. E non di meno, se la gli viene colta, lo effetto mostra i pensieri loro, perché con questo inganno si servono il più delle volte della moltitudine a farsi grandi. Quant à l'universale, si vede sempre per esperienza che questi medesimi, come sono condotti alla equalità, non fermano quivi il suo fine, ma cominciano a cercare, o almeno desiderare, grandezza e avanzare gli altri. E donc, c'est la mise en évidence, c'est le fondement de sa méthodologie, l'expérience, l'effet, hein, cette mise en évidence des enjeux cachés de l'aspiration à la liberté amène donc à remettre en question un point fondamental, à savoir, non è così naturale, né così universale è il desiderio dei governi liberi. Ça remet donc en question la thèse de la tradition républicaine que lui-même exprimait encore avec netteté dans le discorso di Logroño. Alors, cet examen de l'utilisation de Libertà amène à remettre en question également, hein, l'hypothèse même qu'on peut, dans l'absolu, définir ce qu'est l'équalité, autre pilier de la réflexion de la tradition républicaine. Donc, égalité, il l'interroge aussi, hein, quanto al caso nostro si può considerare in due cose, cioè che ognuno sia equalmente sotto le leggi, ne possa l'uno essere oppresso dall'altro, e questa parità e sicurezza sa tanto e forse meglio sotto un altro governo, quando è ben ordinato, come sotto il governo libero. E però per questo solo non è necessario desiderare la libertà. Nel secondo capo si può considerare la equalità, cioè che ognuno governi, tanto l'uno quanto l'altro. E questo non è appetito ragionevole, perché nei magistrati e nel governo debbe avere più parte chi è più atto a governare. Essendo trovate le autorità civili dei magistrati, per beneficio di chi è governato, non per soddisfazione di chi ha a governare. Et donc, ce deuxième point aussi, hein, distinction entre deux sens de l'égalité, être traité par les lois de façon équitable, d'accord, mais ça définit pas, ça n'oppose pas governo libero à principat, ou governo stretto, hein, et équalité vis-à-vis des magistratures, et ça n'est pas, hein, une égalité souhaitable. Et donc, ça sera la raison pour laquelle il introduira, au-delà du rôle du Consiglio Grande comme celui qui distribue, hein, l'instance de souveraineté qui distribue les magistratures et les honneurs, il introduira les lieux réels du gouvernement où on mettra ceux qui sont aptes, hein, ceux qui sont aptes. Nei magistrati e nel governo deve avere più parte chi è più atto a governare. Alors, tout ça pourrait, d'une certaine façon, se synthétiser par une réflexion centrale sur la question du choix des effets comme méthode pour l'analyse. Et donc, là aussi, on est dans la droite ligne de la méthodologie qu'on a définie. Hein. Ça s'exprime très simplement. Dico che a volere fare giudizio tra governo e governo, non dobbiamo considerare tanto di che spezie siano, quanto gli effetti loro. E dire quello essere migliore governo o manco cattivo, che fa migliori e manco cattivi effetti. Migliori o manco cattivi effetti. Dunque, il faut en venir ai particolari. Hein? On est dans la logique donc du refus des gouvernements imaginés. Il faut en venir aux particolari. E quando si viene ai particolari, a governi che sono in essere, eh bien, allora, per poter rispondere risolutamente, io non guarderei tanto di che spezie siano questi governi, quanto io avrei rispetto a porre mente dove si fa migliori effetti e dove meglio siano governati gli uomini, dove più si osservino le leggi, dove si faccia migliore giustizia e dove si abbia più rispetto al bene di tutti, distinguendo ciascheduno secondo il grado suo. Là, je crois qu'on a élucidé les principaux points de la méthode d'approche, hein, de considerazione delle cose, hein, de la considerazione degli umori della città. Voilà cette méthodologie mise en place. Et la prochaine fois, nous verrons quels effets a cette méthodologie sur les propositions de Francesco Guicciardini pour le governo di Firenze.